Donc on passe à la partie du débat. Je vais donner la parole à la salle, mais comme il se trouve que j'ai deux questions, je vais me mettre avant. La première question, c'est à propos de l'information émissaire qui pourrait remplacer le bouc émissaire. Et ça fera le lien avec l'exposé de Maître Soulez-Larivière. Tu disais qu'aux États-Unis, ce n'est pas au pénal que ça se passe, et c'est dans d'autres juridictions, et que finalement, les gens se contentent de l'information qu'ils ont pu obtenir. Est-ce qu'ils ne se contenteraient pas aussi des indemnités? Est-ce qu'il n'y a pas une manière de traiter aussi les patients par l'argent émissaire? Parce qu'un ami de mes amis était aux États-Unis, et un jour, un électricien est venu faire des travaux chez lui. L'électricien était tout heureux. Il discute, il dit, j'ai eu un accident grave, et il était heureux. Pourquoi? J'ai gagné 300 000 dollars. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une manière de purger les patients qui est de donner beaucoup d'argent? Le deuxième point, c'est pour M. Sicot. Vous avez parlé à la fin d'un processus dans lequel les médecins échangent sur leurs erreurs. Il faut vraiment beaucoup de vertu parce qu'on imagine la situation. Un médecin dit, tiens, j'ai fait une erreur. Un collègue dit, encore. Vous imaginez que, à moins que les médecins soient jamais en conflit, jamais en compétition, alors moi je connais d'autres milieux où ce serait beaucoup plus difficile à faire, même dans la recherche, dévoiler ses faiblesses, ce n'est pas vraiment très facile. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment dans ce sens-là qu'on peut avancer très loin?
Écoutez, je peux vous en parler là encore en connaissance de cause, parce que si vous voulez, bon, j'ai créé mon service en 73 et c'est en 96, alors que je pensais que tout baignait, qu'une bombe m'a éclaté au nez, et je me suis aperçu qu'en fait, dans le service, il y avait un énorme problème, notamment entre les médecins et les infirmières. On s'est réunis autour d'une table. Je peux vous assurer que c'était pratiquement intenable. Les balles sifflaient de partout. Les gens s'auto-accusaient de plein de choses. On a fait ça toutes les semaines. Au bout de 6 mois, les gens ont compris qu'ils étaient dans le même bateau, et notamment que les médecins ne voulaient pas pourrir le travail des infirmières et que les infirmières ne voulaient pas pourrir. Mais il a fallu 6 mois pour qu'ils s'expliquent. Et je pense que, en effet, pour un médecin, ce n'est pas naturel de parler de ses erreurs. C'est épouvantable parce qu'il y a un malade derrière. Mais c'est la seule façon de progresser. Je peux dire, là encore, parce que j'ai une certaine expérience, dans ce métier, on ne progresse pas avec ses succès. On progresse avec ses erreurs. Et toute la nécessité, c'est de donner ses erreurs pour que les autres, et notamment les plus jeunes, ne les commettent pas à nouveau. On vit à l'heure actuelle sur un système que pratiquement chaque médecin doit passer par les mêmes erreurs pour arriver à être quelqu'un de correct. Eh bien ça, c'est fini, on ne peut pas continuer sur ce rythme-là. Le risque lié aux soins, c'est 10 000 morts et c'est certainement plus. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose et ce seul moyen, c'est de parler de ses erreurs, parce qu'au moins en parlant, eh bien, on arrive. Parce que souvent, on a trouvé déjà la solution pour les éviter et on permet aux autres de les éviter. Quand je suis devant une assemblée de médecins, je dis que celui qui n'a jamais fait une erreur diagnostique se lève. Je n'ai jamais eu quelqu'un debout devant moi.
Donc, le docteur Laurent Sedel, dont on a parlé tout à l'heure.
Voilà, je vais juste peut-être pas vous poser vraiment des questions, mais corriger deux, trois choses. D'abord, vous dites par exemple qu'on a toujours une erreur sur 100, je crois que vous me citiez. Ce n'est pas ce que j'ai écrit. J'ai écrit on a une infection sur 100, ce qui est autre chose. L'infection n'étant pas pour nous considérée comme une erreur, c'est quelque chose que l'on cherche à éviter, mais qu'on ne sait pas éviter. Voilà, bon après, on peut reparler de la...
Comparaison nosocomiale.
De l'infection nosocomiale, parce que les microbes, on ne gère pas totalement. On fait le maximum, évidemment, pour les éviter. Mais de temps en temps, ça arrive. Voilà, c'est ça que j'ai voulu dire. Et vous regardez dans le monde entier la chirurgie, enfin certaines chirurgies, on a les chiffres, hein, on sait très bien. Et on sait qu'on n'arrive pas à descendre en dessous de, mettons, 0,5. Peut-être, bon, j'ai mis 1%, mais c'est... Et on ne sait pas faire autrement. Bon. Ça rejoint un petit peu ce que disait M. Sicot. Je vous remercie, mon cher confrère, d'avoir si bien exprimé les choses. Évidemment, je me sens parfaitement en accord avec vous. Mais pour contrecarrer ce que disait Michel Berry, en fait, nous passons notre temps à parler de nos erreurs. Moi, je le fais tous les matins. Et si vous voulez, tous les matins, je dirige un grand service d'orthopédie et de traumatologie dans Paris. On a toutes les nuits entre une quinzaine d'accidentés qui nous arrivent, qu'on opère. Donc, on parle, on fait pas que des erreurs hein, chez moi, ne vous inquiétez pas quand même. On fait pas que des erreurs, mais on fait disons, des ce que vous appelez des misses en aéronautique, des choses qui sont borderline, où on a peut-être un peu merdé de temps en temps. Enfin, voilà. Bon, donc, et tout ça, on s'en parle et on s'en parle énormément. Et on n'a pas de honte. Et moi, c'est une culture que j'ai. Alors, c'est peut-être particulier à la chirurgie orthopédique, je ne sais pas. Moi, c'est une culture que j'ai depuis 30 ans, quoi. Monsieur Merle d'Aubigné nous enseignait ça, et voilà. Et dans, je dirais que dans tous les bons services en France, ça se passe comme ça. Et c'est le seul moyen, effectivement, d'éviter. D'abord, on sait ce qui se passe. Ensuite, on peut éviter que ça recommence. Voilà. Donc, c'est la meilleure façon pour nous d'éviter les risques. Alors en ce moment, alors j'ai bien aimé votre façon effectivement de voir ce qui se met en place de façon un peu autoritaire, un peu administrative, et la vraie vie. Et pour nous, on a l'impression d'être de plus en plus dans le grand écart permanent, quoi, parce qu'on a d'un côté des choses qui nous arrivent de au-dessus, qui sont des démarches qualité classiques de l'industrie, mais qui s'appliquent bien pour organiser, je sais pas, la nourriture, l'hôtellerie, disons, dans un hôpital, mais pas du tout pour les soins. Quoi. C'est-à-dire pour les soins, on a besoin, alors c'est comme les pilotes, effectivement, c'est le même genre de réaction, on a besoin d'en parler, et en permanence d'en parler. Alors effectivement, si à chaque fois qu'on dit il s'est passé ça et ça, on a derrière le coup près, ça pose un problème. Et la deuxième question, juste une petite réflexion là. C'est de parler du coût de ces procédures. Alors ça, moi, je dis souvent, et je l'écris, que le coût de toutes ces procédures pour se couvrir, tout ce qu'on fait maintenant, en américain, ça s'appelle la defensive medicine, ça coûte des fortunes. Dans l'État du Massachusetts, ils ont calculé ça à 20 milliards de dollars par an. Voilà, enfin, c'est ce qu'on fait qui n'est pas vraiment justifié médicalement, qui est simplement justifié pour ne pas risquer un procès. C'est extrêmement coûteux. Et c'est vraisemblablement une des grandes causes des dérives des dépenses de santé actuellement. Et si on arrivait à se sortir un peu de ce cercle que je dirais vertueux-vicieux, je ne sais pas comment le qualifier, enfin, c'est un peu difficile à exprimer, enfin, je pense que vous avez tous compris ce que je veux dire, on devrait arriver parfaitement à boucher le trou de la sécu. Enfin bon, je vais arrêter là, mais...
Je voudrais insister beaucoup sur le chiffre 1 sur 100, parce qu'il est fondamental. À l'heure actuelle... Les études américaines et même la seule étude française qui a été faite sur le risque lié aux soins à l'intérieur des hôpitaux français, c'est le suivant. Quand vous entrez dans un hôpital, une fois sur 100, c'est soit pour un problème lié aux soins, soit vous serez victime d'un problème lié aux soins. Et sur ces 1 sur 100, 10% vont mourir. Il faut savoir que le risque, la mort liée aux soins dans un hôpital, c'est 1 sur 1000. Vous allez sur le site de l'HAS. Et vous voyez qu'on va mettre en place à partir du 1er janvier 2010 une checklist pour le bloc opératoire. Là encore, la raison, c'est qu'un opéré rentrant dans un bloc sur 100 aura un problème indésirable lié aux soins. Et 10% de ces 1% vont mourir, 1 sur 1000 au niveau. Donc c'est quand même non négligeable. Ça met la médecine dans des conditions quand même de sécurité assez dramatiques. Il faut quand même savoir que l'aviation civile, c'est 1 sur 1 million. Un crash sur 1 million de décollages, et pour les compagnies nord-américaines et françaises, c'est 1 sur 4 millions. Il y a une exception, il faut le savoir, c'est les anesthésistes. Les anesthésistes, la moyenne, ce n'est pas 1 sur 1000, c'est 1 sur 10 000, et ils arrivent, pour les opérés qui sont dans les meilleures conditions, pratiquement à côtoyer la sécurité de l'aviation civile. Mais les anesthésistes, alors on dit évidemment qu'ils sont favorisés par leur technologie, ils ont beaucoup d'appareils, mais... Ils ont une culture de la sécurité. Ils ont une culture de l'équipe. Ils vont en congrès, deux congrès. Il y a 3000 anesthésistes dans chacun de ces congrès, alors que la plupart des médecins, ils ont plutôt une culture d'artisan. Je crois que les chirurgiens, en effet, c'est sûr qu'ils sont les maîtres de l'équipe. Mais il faut quand même savoir que le niveau dans une équipe, c'est comme dans une chaîne haute fidélité. C'est le moins bon maillon. Donc, en fait, il ne faut pas faire des prouesses. Ce qu'il faut, et c'est un peu... Ce que je dis, et les chirurgiens peut-être m'en veulent, c'est que quand on a un problème pour se faire opérer, on va chercher le bon chirurgien. Ça veut dire qu'il y en a des moins bons. Alors que les anesthésistes, ben vous n'allez pas demander c'est qui. Vous allez faire confiance. Et vous avez raison, parce que le niveau de l'anesthésie dans notre pays, il est globalement bon.
François Veil.
Je voudrais revenir à un moment sur l'antagonisme entre la démarche pénale et ou judiciaire de façon générale et l'enquête et l'analyse d'investigation, en prenant d'ailleurs comme exemple le cas de mon ministère qui est l'équipement et les transports, où les procédures d'analyse et d'enquête sont systématiquement faites en cas d'accident grave, que ce soit évidemment le BEA étant le prototype d'excellence absolue, qu'on a d'ailleurs étendu à un BEA terre et à un BEA maritime. Enfin, il y a maintenant des bureaux d'enquête accident pour les trois domaines. c'est que l'inspection générale est commise d'office par le ministre pour ses enquêtes, mais se heurte très souvent au juge d'instruction, peu à la police d'ailleurs, mais certainement au juge, qui va jusqu'à interdire l'accès aux preuves, enfin l'accès aux sources. Alors là, il y a une espèce de borderline délicate et qui rend quelquefois impossible l'accès à l'information et ou qui la décale dans le temps. Enfin bref, il y a un conflit entre les deux approches et j'aimerais que vous m'apportiez une réponse là-dessus.
La réponse, comme je vous le disais, elle est le résultat d'une tentative de compromis en France entre l'activité du BEA après l'accident et l'activité du juge d'instruction et l'activité des procureurs. Ça marche plus ou moins bien, ça marche beaucoup mieux qu'en Italie, ça ne marche pas du tout. Mais comment faire ? Le problème, ce n'est pas simplement une question de système judiciaire, c'est aussi une question d'information et d'une information qui est biaisée. Par exemple, c'est très frappant de voir, je pensais à l'accident du Concorde, oui. Quand il est arrivé, il y a eu aussitôt une enquête qui était ouverte, une information judiciaire qui était ouverte, et la motivation de cette ouverture d'information, c'était il faut que les familles puissent être informées. C'était texto ce qui était ressorti aussi pour l'accident de Sharm el-Sheikh, alors qu'on sait très bien que le BEA a aussi une tâche d'information, et que quand les informations sont données, il y a pratiquement une conférence de presse avec le procureur d'un côté, et puis une conférence de presse avec le BEA de l'autre, ce qui était le cas à un moment de Sharm el-Sheikh. Et alors, c'est ce par quoi j'ai terminé, si vous voulez. Ce n'est pas simplement une question technique, c'est une question politique et une question sociologique. C'est-à-dire, quand une grande catastrophe comme celle-ci est arrivée, indépendamment de la cellule psychologique qui est obligatoire, sur laquelle j'ai pas mal travaillé avec Caroline Ligachev dans mon livre sur les victimes, qui est toute une histoire qui présente beaucoup d'avantages et aussi certains inconvénients, bah, il faut qu'il y ait aussi un juge d'instruction. Et si ce n'était pas un juge d'instruction, ça serait un procureur qui ferait une investigation, une enquête préliminaire. Et pourquoi ? C'est parce que dès que quelque chose arrive de catastrophique, c'est absorbé par cette nécessité de trouver le pécheur, pas simplement le coupable, mais de trouver le péché. C'est extraordinairement difficile à enrayer, parce que comment est-ce que vous enrayez un phénomène politique ? Comment est-ce que vous faites ? Je n'ai pas de recette, j'ai simplement l'idée que, et ça c'est une idée qui m'était donnée par mon associé qui est anglais et français en même temps, il me citait l'exemple de la mort de Diana. Et dans la mort de Diana, il y a eu une instruction à la française qui était faite, qui a abouti à des résultats, en tout cas pour les Français, très probants. Mais pour les Anglais, il restait des problèmes parce qu'évidemment, notre système d'instruction secret, tout ça, ça ne marchait pas du tout pour eux, ils ne comprenaient pas du tout. Donc ils ont fait une enquête du coroner, c'est-à-dire qu'ils ont fait une enquête qui n'a pas de conséquences pénales, mais qui se fait avec aussi un jury et un juge. Et puis à la fin, quand c'est fini et que tout a été mis sur Internet jour après jour, le juge dit, il n'y a rien à voir là-dedans, vous avez bien compris, tout ça ne tient pas la route, il n'y a pas plus de complot que de Beurembrouche. Bon, c'est une manière de traiter, je ne dirais pas qu'il faut généraliser ça, parce que de toute façon, on ne peut jamais rien généraliser avec le système anglais, parce que c'est toujours le cas particulier, avec les gens qu'il faut dans tel endroit, etc. Mais ils ont quand même cette autre scène, et je pense qu'il faudrait qu'on arrive à en trouver une qui permette d'absorber ce besoin d'information. Alors aux États-Unis, puisqu'on y revient à l'instant, comment ça se passe maintenant dans les grands accidents d'avion ? Les petits, ça s'est passé très mal, puisque l'industrie des petits avions légers a quasiment disparu pendant 20 ans, jusqu'à ce que le président Clinton fasse voter une loi par le Congrès pour limiter les dommages et intérêts dans les accidents de petits avions. Mais pour les gros avions, il y a eu une expérience pénale avec les Everglades, c'était l'accident en Floride où un avion a disparu corps et bien et on n'a retrouvé rien du tout. Et c'était une bérésina complète sur le plan judiciaire. Ils sont jurés que jamais ils ne recommenceraient une affaire pénale avec un accident d'avion. Alors qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe que le NTSB, c'est-à-dire le BEA américain, qui lui regroupe toutes les sortes de transports, ce n'est pas simplement aviation, et qui est un organisme très respecté et fort connu, fait des audiences, des hearings, où ils font venir les familles et les avocats, les spécialistes de ces sinistres, du côté des victimes, ont convenu entre eux, en tout cas c'était le cas il y a quelques années encore, de ne pas poser de questions, de ne pas faire de débat, mais d'écouter, et ensuite ils expliquent. Et bon, donc les familles, il y a des séances spéciales pour elles, où on leur explique les choses, et les avocats derrière le font encore. Et puis après, quand le NTSB a rendu son rapport, les avocats se réunissent, et ils se distribuent les cartes. C'est-à-dire que déjà, il y a eu un fonds qui a été créé pour indemniser les gens, et après, bah, les acteurs et les opérateurs, en fonction de ce qu'a décidé le NTSB, se répartissent entre eux les responsabilités. Et tout ça, c'est sous le regard du juge civil avec son gros bâton financier. Simplement, qui, lorsque ça ne marche pas, chaque acteur sait très bien que ça va coûter très très cher, que ça va durer très longtemps, et donc essaye d'éviter ça. Donc voilà ce à quoi on est arrivé aux États-Unis. Cette scène, elle est à peu près assumée par le NTSB, et encore, c'est pas peut-être encore suffisant. En France, le BEA n'absorbe pas encore cette scène-là. Et est-ce qu'il le souhaite? Je ne sais pas, parce que justement, il y a toute une partie dans les investigations qui nécessite un minimum de confidentialité. Alors là, on en revient à un autre sujet, enfin, plus général, c'est la confusion en France entre la vertu et la transparence. La transparence étant pas plus une vertu que le secret, mais simplement une technique dont le dévoiement est aussi grave dans un cas que dans l'autre.
Alors, Claude Rivlin.
Oui, Claude Rivlin, professeur à l'École des Mines. Je voudrais offrir à votre réflexion un paradoxe. Plutôt que de s'indigner qu'ils sortent des gens de l'hôpital avec des maladies qu'ils ont attrapées à l'hôpital, je vous invite à vous émerveiller qu'ils sortent des gens intacts. Cet étonnement procède d'une observation dans l'industrie qui consiste à remarquer que les choses compliquées sont normalement en panne. Pourquoi ? Parce que, si petite que soit la probabilité que chacun des ingrédients d'un processus compliqué soit défaillant, si ce nombre d'ingrédients est très élevé, la probabilité de la panne globale est certaine. Je vais en donner une petite illustration mathématique très simple. Considérons 20 événements qui ont chacun une probabilité de 2 chances sur 3 de fonctionner. Pas mal de chances sur 3. Eh bien, la probabilité que les 20 événements fonctionnent simultanément est inférieure à 1 sur 1000. C'est 2 tiers à la puissance 20, vous vérifiez que c'est inférieur à 1 sur 1000. Donc les choses compliquées ne marchent pas parce qu'il suffit que l'un des ingrédients soit défaillant pour que l'ensemble ne marche pas. Dans cet esprit, j'ai étudié de près une chaîne automobile. J'ai mis un étudiant dessus et examiné la probabilité qu'il sorte des voitures qui marchent. Eh bien, compte tenu de la probabilité qu'il a évaluée comme il a pu de la défaillance de chacune des tâches, les 4 tâches étaient au nombre de 400. Il a calculé que normalement, il ne devrait pas sortir plus d'une voiture en état de marche par mois de cette chaîne, alors qu'il en sortait plusieurs centaines par jour. Donc la question est de comprendre pourquoi ça fonctionne. Et les explications que nous avons aventurées sont de 2 types. La première, c'est que quand on a fait des milliers et des milliers et des milliers d'essais, on finit par converger vers un processus qui globalement fonctionne de façon improbable à partir de la description de chacune des tâches. Parce qu'on a affronté tellement de défaillances qu'on a fini par trouver des remèdes globaux. Mais il y a une deuxième explication qui est beaucoup plus forte. C'est qu'il y a des grands obsessionnels, des gens à moitié fous, qui ne pensent qu'à ça, qui font en sorte que ça marche quand même. Nous en avons une illustration à l'École de Paris, c'est quand on a examiné le fonctionnement des centrales nucléaires. La conversation des responsables d'une centrale nucléaire est alimentée jour et nuit par des descriptions d'accidents qui ne sont pas arrivés. On bisute les petits nouveaux en leur disant « ça clignote orange ici et ça s'allume rouge là, tu fais quoi ?» Alors il dit « j'appuie là », on lui dit « ça y est, la centrale a sauté, c'est Tchernobyl ». Il dit « ah, j'aurais pas dû, c'était pas ça bon. ». Et à jouer à ça jour et nuit, on finit par obtenir un système dans lequel les gens sont tellement soucieux que ça marche quand même, que ça finit par marcher quand même. Conclusion, quand il n'y a pas ces grands obsessionnels, quand il n'y a pas cette répétition de l'accident simulé pour qu'il n'arrive pas, eh bien les accidents arrivent. Certains ont dit « c'est ça le sous-développement ». C'est quand il n'y a pas cette obsession surhumaine, anormale, de la lutte contre l'incident, alors les incidents se produisent avec une constance désespérante, mais dans lesquelles punir ne servirait à rien.
Oui, je confirme tout à fait. Il y a un courant de sociologie qui s'est développé aux États-Unis qui s'appelle le courant des organisations hautement fiables. Et ces sociologues se sont posé la question pourquoi, par exemple, le pont d'envol d'un porte-avions est aussi fiable alors que c'est l'endroit le plus dangereux au monde compte tenu qu'il y a des hélices qui tournent en permanence, des réacteurs qui fonctionnent, très peu d'espace, un bateau qui bouge, etc. Et une de leurs conclusions, c'est que, en fait, le pont d'envol d'un porte-avions est un endroit où il y a une interaction permanente et généralisée, où tout le monde communique en permanence avec tout le monde, avec des redondances, des surveillances échelonnées. Et ils disent, finalement, un porte-avions, c'est une école permanente. Et j'ai eu l'occasion de naviguer dans un sous-marin nucléaire d'attaque. Ce qui m'a frappé, c'est que, en fait, j'avais l'impression aussi d'être dans une école. Les sous-mariniers se formaient quotidiennement en permanence. J'ai voyé toujours en binôme ou en trinôme, avec un, avec des polycopiers où ils se parlaient sur ce qui se passait, où un senior expliquait à un junior ce qu'il fallait faire. Il y avait des exercices en permanence. Et je retrouvais exactement ce qu'avait dit cette école de Berkeley qui s'est intéressée aux organisations hautement fiables. Le porte-avions est une école permanente.
Oui, je crois que vous avez entièrement raison que l'ultra-sécurité peut conduire à des désastres. L'exemple actuellement, c'est la transfusion sanguine. La transfusion sanguine va disparaître à cause de la transfusion sanguine. Pourquoi ? Parce que depuis le drame du sang contaminé et le fait que des ministres ont fini en cour de justice, la sécurité est devenue une exigence absolue. Le seul problème, c'est que chaque fois que l'on durcit la sécurité en transfusion, mettons de 5%, on perd 10 à 20% des donneurs parce qu'on ne peut plus prendre leur sang. Donc, avec ce système-là, en plus, comme les biologistes ne veulent pas revenir même sur des sécurités qui sont peut-être pas tellement nécessaires, eh bien, il ne va plus y avoir, avec l'augmentation des besoins avec la population qui vieillit, assez de sang. Donc on est obligé d'inventer un autre moyen que la transfusion. Heureusement, au lieu de mettre de l'argent sur la sécurité, ça fait maintenant quelques années qu'on l'a mis sur d'autres moyens, eh bien, c'est les cellules souches qui vont pouvoir remplacer la transfusion sanguine. Et avec les cellules souches, on n'aura plus besoin ni de course sanguine, ni il n'y a pas de problème de contamination virale. Mais c'est un bon exemple, comme vous avez là. C'est vrai qu'il faut faire attention. Et je voudrais aussi revenir sur ce que vous avez dit. Parce qu'il faut bien savoir qu'en médecine, il y a, en 50 ans, c'est prodigieux. C'est prodigieux. Moi, ce que j'ai connu, c'est extraordinaire, les progrès de la médecine. Mais ces progrès de la médecine n'ont pas été du tout liés à une amélioration de la sécurité, des soins. Pas du tout. Au contraire. Et plutôt plus mal. Enfin, ça a été lié à des découvertes. Il suffit de découvrir un médicament. Par exemple, on a découvert un médicament immunosuppresseur, la cyclosporine, et du jour au lendemain, les greffes de foie qui étaient impossibles, non pas techniquement, les chirurgiens savaient les faire. Du jour au lendemain, les greffes de foie ont été tolérées. C'est des progrès comme ça qui sont liés à des progrès de la médecine. C'est ça qui fait que la médecine est devenue de plus en plus efficace. Maintenant, quoi, je pense que quand même que le risque lié aux soins que l'on a quand même pas mal négligé, on devrait s'en occuper parce que bon, ça ne va pas améliorer l'efficacité de la médecine, mais pour certains individus, ça va quand même leur changer leur destinée.